Bonjour, bienvenue dans Carrément Immo. Vous le savez, Carrément Immo, c'est une fois par semaine une émission dans laquelle je reçois des experts du secteur, des acteurs de premier plan qui viennent sur mon plateau me faire part de leur expertise, voilà, qui viennent croiser leurs regards. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les prix, parce qu'on en parle beaucoup, les prix baissent, les prix remontent, ça dépend des villes, voilà, on ne sait plus où donner de la tête. Donc pour cette émission, j'ai invité deux spécialistes. Céline Coletto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole pour trouverunlogementneuf.com. Et puis Régis Sebi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des études pour Bien Ici. Un petit mot peut-être, alors, pour présenter chacun, trouverunlogementneuf.com, Céline, en quelques mots.
C'est un portail pure player dans le neuf. Dès que les internautes cherchent un logement à acheter sur tout le territoire, et ben voilà, ils tapent appartement neuf Lyon, trouver un logement neuf à Lyon, à Marseille, etc. Et ils tombent sur nous en général.
Donc voilà, très important pour trouver un logement neuf. On va en parler justement. Vous allez nous exposer les prix du neuf France entière. Et puis vous, Régis, présentation de Bien Ici pour ceux qui ne connaissent pas.
Bien Ici, on le présente même plus. C'est un portail immobilier qui est présent sur toute la France, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf, et qui présente aujourd'hui plus de 700 000 annonces immobilières un peu partout en France.
Voilà, alors avec vous, on va se focaliser surtout sur les prix de l'ancien. On va peut-être commencer avec un état des lieux du marché. Alors, on n'est pas encore sorti, on est en train de sortir, enfin, vous allez me donner votre avis. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on est en train de sortir d'une période très, très, très compliquée, une crise du logement, hein, structurelle, conjoncturelle. Voilà, 2024 a été qualifié pour certains d'années de transition pour l'immobilier. Est-ce que déjà, c'est votre ressenti ?
De toute façon, il faut espérer un rebond, parce que sinon, en tout cas, dans le neuf, les promoteurs immobiliers, ils vont pas s'en sortir. Ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années qu'ils font le dos rond. Les ventes et les mises en vente, elles ont été divisées par deux en deux ans. Donc clairement, là, si ça ne reprend pas cette année, ça sera très compliqué pour eux. Il y a eu des faillites, il y a eu des redressements. Les promoteurs ont fait le choix de se séparer de environ, on nous dit, au moins 30% de leurs effectifs. Donc clairement, cette fois-ci, le seuil est atteint, il faut que ça reparte. Tous les acteurs nous disent qu'on est sur la bonne voie. C'est vrai que les signaux sont au vert, le PTZ, les taux d'intérêt qui baissent, etc. Donc tout ça, c'est des bonnes choses pour que effectivement ça reparte. Donc effectivement, on peut se dire qu'on est sur la bonne tendance, on est sur une, de toute façon, reprise qui sera lente et progressive.
Alors c'est important ce que vous dites, hein, parce que c'est vrai que les promoteurs sont, on va dire, les plus impactés. Hein. Le logement neuf, clairement, c'est vraiment le secteur qui a été le plus impacté. Hein.
Alors clairement,
c'est la pire année 2024.
Clairement, pire que l'année du Covid quand même. Ouais. Mais c'est surtout qu'il faut se dire que derrière, c'est tout un écosystème. Parce que derrière, s'il y a moins de logements neufs construits, c'est moins de cuisine, c'est moins de déménagement, c'est chez les notaires. Ouais. Il y a tout un écosystème qui en pâtit. Et on le voit, les marchands de meubles qui ferment leurs portes, etc. C'est vraiment...
Le bâtiment, hein, 35 000 emplois supprimés.
Bien sûr, le bâtiment, mais ça fait partie vraiment enfin, le BTP, le bâtiment, ça fait partie de l'écosystème de la promotion immobilière. Voilà, on nous annonce effectivement des pertes d'emplois, des défaillances d'entreprises. Donc ça, c'est l'écosystème, on va dire, autour du logement neuf et de la construction. Mais après, il y a tout ce qui est encore plus loin, un petit peu, les deuxièmes rideaux, voilà, des cuisinistes, etc., qui se portent moins bien en ce moment.
Mmh. Alors, Régis, vous, voilà, quelle est votre lecture actuelle du marché ? Est-ce que nous sommes, selon vous, à l'aube d'un rebond ?
Alors, sur le rebond, oui, il est espéré. Et on l'a déjà vu un petit peu en 2024, mais partiellement. C'est-à-dire qu'on va l'avoir sur des moments comme septembre, la rentrée, où on a eu des bonnes nouvelles, notamment au niveau des taux d'intérêt, qui commencent à baisser. Donc, les rebonds, on les voit, et on les voit surtout au niveau du trafic. En tout cas, sur Bien Ici, on a battu des records depuis septembre, et encore un nouveau record en janvier, avec presque 19 millions de visites.
Et, donc, qu'est-ce que vous appelez visite ? C'est une personne qui vient sur la plateforme Bien Ici,
notamment les annonces, et qui vient faire des contacts pour prendre des rendez-vous et visiter les biens. Donc là, on est à peu près sur une tendance aux alentours de 600 000 visites par jour, ce qui est très bien et ce qui montre en tout cas l'intérêt des Français sur l'immobilier, sur les biens à vendre.
Et alors, question peut-être à vous deux. Là, quand on parle de clics sur une plateforme, est-ce qu'il y a, vous avez, j'imagine, à travers les années, fait la corrélation ? Il y a vraiment un lien entre le nombre de transactions et puis le nombre de clics ? Est-ce que c'est vraiment... ça représente bien, en tout cas ?
C'est assez lié, et puis...
c'est lié, c'est pas lié. C'est que parfois, en fait, les gens... Le besoin de logement, il est là, clairement. Ouais. Après, les gens... ils sont sur nos sites internet, c'est vrai.
Parce que moi, je peux aller voir des agences, mais juste des annonces, mais juste pour rêver, annonces, quoi.
Ben, juste... pas forcément pour rêver, c'est parce que vous avez peut-être envie de changer ouais. de logement, mais que vous trouvez pas forcément chaussures à votre pied, ou que justement le budget, ça correspond pas. Donc, il y a plusieurs étapes. Alors, on sent qu'effectivement, il y a des recherches, ça repart sur nos portails, clairement. Après, à voir si ça se transforme en acte de vente, en signature de contrat de réservation dans les bulles de vente des promoteurs ou après dans les agences immobilières sur l'ancien. Ça, pour l'instant, c'est encore pas ça, puisque les chiffres, clairement, de fin d'année et même de ce début d'année, ils sont pas encore en hausse concrète.
Mais globalement, en fait, au-delà de la simple visite, on va voir les contacts, les mises en relation, en fait, auprès des agences. C'est-à-dire que les gens qui consultent les annonces vont aussi passer l'étape d'aller demander plus d'informations sur ces annonces. Et du coup, cette étape-là de renseigner ses coordonnées pour se faire appeler et avoir plus d'informations, elle augmente encore cette année d'à peu près 15 à 17% en tout cas sur Bien Ici.
Et là, on est dans une autre démarche. Là, c'est plus simplement regarder, tiens, ça serait pas mal d'habiter là. Là, on va chercher l'information.
Exactement.
Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va parler des prix. Céline, donc, trouverunlogementneuf.com indique une stabilisation, voire une légère remontée des prix dans le neuf. Bien Ici révèle en revanche une baisse des prix dans l'ancien, mais avec des signaux de reprise.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ces deux dynamiques différentes ? Peut-être commencer par le neuf.
Alors déjà, le prix du neuf, nous, c'est un prix de mise en vente. Mmh. Et le prix du neuf, c'est un prix technique, c'est-à-dire ça représente l'achat du foncier, le coût de construction, un coût qui peut difficilement beaucoup évoluer. C'est vrai que le prix de l'ancien, c'est une rencontre entre un acheteur et un vendeur. Du coup, si le vendeur il se dit bah non, moi c'est mon prix, je veux pas baisser, ou vice versa. Parfois, il est obligé de baisser quand il y a un divorce, par exemple, et que vous devez être dans la revente précipitée. Bah là, vous avez pas le choix, donc vous acceptez de baisser votre prix. Le prix d'un bien et d'un logement neuf, c'est bien la particularité, c'est que malgré ce qu'on pourrait penser, malgré la chute des ventes depuis 2 ans, alors oui, il y a eu des corrections ces derniers mois, ces dernières années, mais en fait, elles peuvent pas être si fortes que ça, tout simplement parce que quand vous avez acheté un foncier, que vous avez un coût de construction, que vous avez des frais derrière, le prix il va pas être divisé par deux, même si les ventes ont été divisées par deux ces dernières années.
Et surtout, les promoteurs connaissent ce qu'on appelle un effet ciseau, parce qu'ils ont surfé aussi pas mal sur les prix du marché, hein, avec l'achat du foncier. Le temps qu'ils sortent l'opération, ils jouaient sur le prix des biens qui augmentait.
Exactement.
Là, ils ont acheté un foncier à un certain prix. Les prix des biens dégringolent.
C'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup d'opérations stoppées, voire retirées du marché, abandonnées tout simplement. On nous parle de 31%, ce qui est énorme, tout simplement aussi parce que ça trouvait pas de clientèle, donc quand ils atteignent pas le taux de pré-commercialisation, on l'appelle comme ça dans le milieu, c'est au moins 40% de vente déjà d'une opération, et bien ils préfèrent retirer l'opération, abandonner l'opération, et c'est aussi pour ça que l'offre elle est en train de diminuer, elle est en train de beaucoup diminuer.
Alors, concernant l'ancien, les prix en baisse. Est-ce que déjà, vous pouvez nous faire un petit topo des villes où les prix baissent un petit peu ? Parce que ça dépend des villes, je crois.
Alors, en gros, ça dépend des villes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sorti d'une année 2021 record en termes de transactions, ce qui a fait énormément augmenter les prix. Puis arrive en 2022 l'inflation et les taux de crédit qui commencent à augmenter. Et là, le marché se stabilise, les prix se stabilisent et c'est très, très ralenti. Il a fallu attendre quasiment un an après le démarrage de l'inflation pour voir des premiers signaux de baisse des prix. Et la baisse, elle est plutôt continue si on revient 2 ans en arrière. Et là, ça a tendance à re-augmenter un petit peu en ce début d'année dans certaines villes, mais sans atteindre les niveaux les plus élevés qu'on avait encore il y a 2 ans dans les grandes villes. Si on prend quelques exemples, on va avoir des villes, principalement des grosses métropoles comme Bordeaux, Montpellier ou Lyon, par exemple, où les prix ont tendance à remonter un petit peu en ce début d'année.
Ça avait bien baissé, hein, Bordeaux et Lyon.
Exactement, où les prix... Ils ont tendance à remonter un petit peu en ce début d'année par rapport à la fin d'année dernière, mais on reste globalement en dessous des prix d'il y a 2 ans. Si on regarde Lyon ou Montpellier, j'avais des exemples, mais à peu près sur des T3, par exemple, c'était de l'ordre de 30 à 40 000 euros selon les villes de baisse par rapport au prix médian sur un 3 pièces dans ces grandes villes-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on passait globalement sur des prix qui étaient aux alentours de 260-270 000 euros pour passer c'est à 240 000 euros aujourd'hui.
Là, quand vous parlez donc de cette baisse, on voit que ça coïncide avec la baisse des taux. Mécanique ou pas selon vous ?
La hausse remonte un petit peu par rapport à la fin de l'année. Parce que on va avoir un effet mécanique. Déjà, il y a eu des transactions qui ont pu se faire depuis la fin de l'année, en ce début d'année, et le prix moyen des annonces, c'est celui qui est diffusé actuellement. Donc forcément, les prix les plus bas correspondent aux biens qui ont été vendus un petit peu plus rapidement, et ça remonte un petit peu la moyenne sur ce début d'année. L'autre point à regarder aussi, c'est que dans un contexte où il est plus facile d'acheter à crédit, en tout cas avec des meilleurs taux, et de l'accompagnement bancaire, forcément, on a moins d'intérêt quand on est vendeur de baisser encore davantage son prix.
Là, c'est ce que vous constatez en tout cas.
Oui.
Concernant le neuf, Céline, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de villes, par exemple ? Je sais que vous avez autour de Lyon, Villeurbanne.
Alors Villeurbanne, effectivement, ça baisse beaucoup. C'est une tendance à la baisse. Mais après, c'est vrai que c'est plus... Alors, là, c'est des très gros écarts. On annonce moins 14%. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a tellement peu d'offres en ce moment dans des grandes villes comme ça que forcément, s'il y a un programme haut de gamme ou à l'inverse, un programme qui sort parce que justement il est abandonné, etc., ça peut très vite faire varier les moyennes. Donc c'est plutôt des tendances qu'il faut avoir en tête. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, au niveau national, on avait des baisses de prix depuis plusieurs baromètres de suite, et que là, aujourd'hui, ça repart légèrement à la hausse. Et clairement, on avait des villes, on avait une majorité de villes qui étaient en baisse sur les derniers baromètres, il y a 6 mois en arrière, et puis là, on a à nouveau davantage de villes qui sont à la hausse. Donc clairement, cette tendance, elle repart. C'était une pause parce qu'effectivement, les promoteurs, ils ont dû réadapter leur offre, notamment parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il reste surtout des primo-accédants. Il fallait orienter l'offre vers cette clientèle-là, la resolvabiliser en raison de la hausse des taux qui a été assez fulgurante. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on peut imaginer que la baisse des prix, elle est terminée tant dans l'ancien que dans le neuf.
Alors justement, on va parler de cet accès au crédit. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que les prix ont monté d'une façon assez inédite. C'était hyper rapide. C'est vrai que c'était très compliqué pour les primo-accédants. Vous l'avez dit, ça a été les premiers impactés. Et puis c'est un peu la locomotive du marché. Là aujourd'hui, les taux ont baissé. La BCE a encore annoncé la baisse de ses directeur la semaine dernière. On a des bonnes nouvelles dans le PLF, enfin on en a en 2025. Le prêt à taux zéro, qu'on appelle le PTZ dans le milieu, est élargi, donc de façon géographique et aussi aux maisons individuelles. Il y a les fameuses donations aussi. Est-ce que selon vous, ces mesures vont débloquer ? Est-ce que c'est suffisant ? Qu'est-ce que ça va donner selon vous sur les prix, sur les transactions ?
Alors, en fait, sur les prix, dans le neuf, donc déjà, ça va relancer la demande. Effectivement, ça va soutenir la demande des mesures comme ça, comme le PTZ ou l'exonération de donation, l'exonération sur les donations. Tout ça, donc, ça va relancer. Mais face à ça, il y a peu d'offres. Parce que justement, disait, les promoteurs, ils ont réduit la voilure, ils ont abandonné des opérations. Là, à l'heure actuelle, on n'a que 94 000 logements neufs en commercialisation. Donc on peut imaginer que si ça repart vite, forcément, il y a des villes qui vont être plus demandées que d'autres. Et donc, ça va mettre de la pression sur les prix. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est l'approche des élections municipales. C'est dans moins d'un an. On sait que les maires, ils aiment pas trop délivrer des permis de construire juste avant les élections.
Olivier Salon, j'ai échangé avec lui il y a quelques jours, il m'a dit que c'était pas si vrai que ça. Ça m'a un peu étonnée d'ailleurs, mais...
Alors quand on parle aux promoteurs, ils vous disent que ça fait déjà 6 mois que les maires leur disent non, ne me présentez pas ces projets, revenez après. Donc je laisse à Olivier Salon,
qui est le président de la FFB, la Fédération française du bâtiment.
C'est son retour. Ouais. En tout cas, nous, les promoteurs, ils nous disent ça. Ils nous disent aussi que il y a beaucoup de documents d'urbanisme comme les PLU qui sont aujourd'hui à nouveau à l'étude.
Je pense donc aux PLU, les plans locaux d'urbanisme.
Voilà, les documents d'urbanisme par exemple celui du Grand Annecy, qui là risque d'être acté avant les prochaines élections municipales et qui clairement mettent un coup de verrou sur la construction de logements neufs. Donc ça, c'est des choses où quand on
suite au souhait des habitants.
Oui, Après, il faut se poser la question. Oui, après, il faut se poser la question. Pourquoi les gens ne veulent plus qu'on construise de logements à côté de chez eux? Ça, c'est vraiment un vaste débat. Mais quand on a mis tout ça à la suite, eh ben forcément, ça risque de créer effectivement une pression sur les prix.
Les gens ne veulent plus qu'il y ait d'autres personnes en face de chez eux. Régis, un petit mot justement aussi sur ces mesures. Alors là, dans l'ancien, est-ce que ça va débloquer le PTZ? Bon, il faut des travaux hein, pour l'obtenir, c'est toujours pareil.
Alors, tout ce qui va toucher à l'amélioration des conditions de financement sera toujours un bon point, parce que ce qui a ralenti le marché et les transactions sur les dernières années, c'était le déséquilibre entre le prix de vente et le budget. Clairement, donc forcément, à partir du moment où le budget correspond au prix et la loi de marché se trouve, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un vendeur à un prix d'un côté et un acheteur avec un budget qui correspond de l'autre, la vente peut se faire. Si le prix remonte trop haut et ne correspond plus au budget, la vente ne se fera plus. Alors, à partir du moment où on a des aides comme le PTZ, oui, certes, avec rénovation, mais on reste aussi dans une dynamique de DPE qui reste importante et qui peut être rattachée dans cet axe de rénovation, c'est des bons signaux pour une reprise, en tout cas du marché et des transactions, oui.
Là, on parle de rénovation. J'ai envie de vous poser la question sur les fameuses passoires thermiques. Oui. Qu'est-ce que vous constatez sur Bien Ici? Est-ce que il y a réellement une décote? Est-ce que elle trouve preneur, on va dire, ces passoires thermiques? Comment ça se passe, le marché des passoires thermiques? Donc, les logements mal notés, hein, FG?
Alors, en fait, on va dire que c'est un nouveau marché parce que, d'un côté, ça va être un marché où il y a plus d'offres qu'avant, parce que c'était pas un marché qui existait ou qui était très, très connu jusque-là. Il va intéresser des personnes parce que les prix sont souvent moins élevés et du coup correspondent soit à des budgets qui étaient jusque-là limités, soit à des acquéreurs, tout simplement, des ménages qui veulent acquérir un bien et le rénover, le faire un peu à leur goût aussi. Donc, on va avoir une population qui est directement concernée par ces biens à rénover, et c'est aussi un axe de projet de vie dans l'achat immobilier de trouver un bien qui corresponde à ses envies, et pourquoi pas le rénover pour qu'il corresponde à ses envies. Donc là-dessus, on va avoir des prix un peu décotés par rapport au marché habituel hein, dans les villes, mais on va avoir aussi une population qui est intéressée à la fois par le côté prix un peu moins élevé et à la fois par le défi, si on arrive en tout cas à se projeter dans son projet immobilier, pour refaire à la fois en rénovation énergétique et en rénovation un peu à son goût.
Ouais, visuel, on va dire, esthétique. Oui. C'est plutôt des primo-accédants, ça veut dire?
Alors, on va avoir les deux, on va avoir des primo-accédants et on va avoir aussi des investisseurs. Parce que derrière, quand on achète moins cher et qu'on peut rentabiliser le coût des travaux avec une plus-value, forcément, les investisseurs sont là aussi.
Malgré, bon là, c'est vrai que ça a un petit peu changé, le LMNP, le loueur meublé non professionnel s'est fait retoquer, ça a peut-être impacté aussi.
J'ai envie de dire, c'est un changement d'investisseur, parce que on va avoir des investisseurs qui avaient acheté pour mettre en location jusque-là, qui se sont retrouvés bloqués par des DPE F et G, qui ont mis leurs biens à vendre et qui vont pouvoir correspondre à d'autres investisseurs rénoveurs, je ne sais pas comment on peut le dire, qui vont trouver justement le moyen de relancer ce marché en faisant de la plus-value sur de la rénovation de biens.
Une remarque sur ce que disait Céline qui était très intéressant. C'est vrai que là on connaît une crise de la demande, mais dans quelques mois, quand ça repartira, c'est vrai qu'il y a un réel risque de crise de l'offre. Les promoteurs, Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, alerte sur ce sujet depuis quasiment 2 ans maintenant. Oui. Il nous dit qu'il y a une double crise hein, de l'offre et de la demande. Et qu'est-ce que vous constatez, vous, Régis,
En termes d'offre, en tout cas sur l'ancien, je ne dirais pas que c'est la crise. Parce que globalement, entre 2022 et 2023, l'offre a énormément augmenté sur les annonces diffusées. Pourquoi ? Parce que les biens ne se vendaient pas aussi vite qu'avant. Et du coup, on a l'impression d'avoir un peu plus de biens à vendre que lors des années, lors de l'année record en tout cas de 2021. Aujourd'hui, en termes d'offres, on va avoir le choix en tant qu'acquéreur parce que les biens ne sortent pas aussi vite du marché qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a les conditions de financement, notamment, où on va avoir un peu plus de temps pour réfléchir à son acte d'achat. Et comme les prix restent assez élevés malgré tout, on ne va pas être dans cette logique de blocage par l'offre, en tout cas tout de suite. Mais à partir du moment où les conditions se réunissent et on a plus de gens qui ont les capacités d'acheter, forcément, bah, les premiers arrivés seront les premiers servis et l'offre va diminuer à nouveau.
Et puis, je rappelle aussi le marché de la location hein, qui est tendu. Oui. Ça, comment ça se traduit? Ça impacte aussi le marché de la transaction?
Alors, le marché de la location, il est tendu et on le voit aussi avec des exemples sur le neuf et notamment l'investissement locatif. Mais là où il est tendu, c'est aussi par rapport à ces primo-accédants qui n'ont pas pu acheter faute de budget et qui ont été, on va dire, contraints de rester locataires jusque-là. À partir du moment où ces ménages primo-accédants vont pouvoir accéder à l'achat, forcément, on va avoir de la libération de biens à louer et tant mieux parce que la demande, elle est énorme.
La question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à trouver chaussures à leurs pieds? Et c'est bien ça le souci, c'est que là, aujourd'hui, on a quand même vraiment un marché qui est très grippé. Parce que juste, comme on construit, on va construire, ou on a construit moins de logements ces derniers mois, et donc, il y a aussi moins de permis de construire. Donc, dans les années à venir, ça va donner moins de logements. C'est vrai qu'on a vraiment grippé le parcours résidentiel. Si les promoteurs construisent moins, c'est aussi moins de logements sociaux qui sont construits, parce qu'aujourd'hui, c'est les promoteurs qui construisent la moitié du parc social. Donc, en fait, c'est vraiment toute la chaîne qui est bloquée. On a moins d'investisseurs. Pinel, en l'occurrence, ces derniers mois, ces dernières années, et ben ça aussi, c'était des logements qu'on mettait sur le marché avec des plafonds de loyer, des plafonds de ressources pour les locataires. Donc, on a grippé les choses ces derniers mois, ces dernières années. Et ça va mettre beaucoup de temps à se relancer. Et malheureusement, je crains que ce soit compliqué encore dans l'avenir et pour plusieurs années maintenant, parce que quand on a quasiment 2 ans où la construction neuve est à...
Oui, c'est un temps long en fait. Hein.
C'est un temps très long.
C'est un paquebot.
Ah, bah, bien sûr, quand les promoteurs nous disent on met 5-7 ans pour sortir des opérations, entre le moment où on trouve le foncier, le moment où on a le permis de construire et où le moment où on remet les clés à ceux qui ont acheté, bah, ça forcément c'est très long et je pense qu'on va souffrir, le marché locatif va souffrir encore pendant longtemps malheureusement.
Question sur le Pinel, c'est vrai que là, on déplore la fin de ce dispositif qui s'est terminé le 31 décembre. L'impact, les conséquences justement sur le logement neuf.
Alors le Pinel avait déjà perdu de la puissance hein, ces dernières années, donc c'est vrai que c'est, on va dire, un atterrissage.
Oui, ça marchait. Le Pinel 2.0.
Il y a eu un retour les derniers mois. On nous a annoncé un retour, donc il y a eu quand même un petit effet d'aubaine, donc preuve.
Parce
que
ça marchait pas du tout.
Ça marchait moins, mais après il y avait peut-être aussi, il avait 10 ans, peut-être aussi que l'effet de mode était peut-être un petit peu passé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont revenus faire des Pinel en fin d'année. Donc preuve que quand même ça avait
avant
de l'intérêt.
Avant que ça s'arrête.
Donc c'était, il y avait de l'intérêt, donc ça c'était déjà une bonne chose. Après, peut-être que ça va changer les choses. On nous parle du LLI, donc c'est le logement locatif intermédiaire qui va s'ouvrir maintenant aux particuliers. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est plutôt un signal positif envoyé aux investisseurs. Moi, je pars toujours de ce principe. Les investisseurs, ils sont importants. Aujourd'hui, ils ont mauvaise presse et c'est vraiment très dommage parce qu'il y a besoin
d'investir. Aux yeux du gouvernement, essentiellement.
Oui, aux yeux, même encore, on va dire même au-dessus, au plus haut sommet de l'État. Et c'est bien le problème parce qu'aujourd'hui, un investisseur, déjà, on est loin du profil de rentier ou d'usurier qu'on veut nous faire croire. Et puis, c'est important parce qu'il faudra toujours des investisseurs pour loger des étudiants, pour loger des jeunes actifs, pour loger des gens qui sont en mutation professionnelle, des gens qui n'ont pas forcément envie d'être propriétaires. Donc, ils sont importants pour justement le parcours résidentiel des Français. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça en tête effectivement au plus haut sommet de l'État. Et depuis maintenant 2017, effectivement, on a un peu tiré sur cette vision d'investisseur et je pense que c'est dommage. Après, peut-être que la fin du Pinel aussi, ça marquera le retour d'investisseurs plus patrimoniaux, on va dire, qui sont peut-être moins là pour la défiscalisation, qui auront peut-être des projets plus sur le long terme, mais c'est peut-être pas plus mal finalement, justement, ça assainira peut-être l'image en tout cas.
Alors pour faire un point, est-ce qu'on peut parler vraiment de réel rebond pour cette année 2025? Alors pas vraiment selon vous, hein, Céline, pour le neuf en tout cas. Pour vous, Régis, on a tendance à croire que pour l'ancien c'est
alors,
le cas.
Pour l'ancien, moi je dirais que c'est en train de repartir parce que les projets qui ont été mis en attente jusque là, ils vont enfin pouvoir se concrétiser.
Et ça, grâce à la baisse des taux.
Grâce à la baisse des taux, mais grâce aux aides. Voilà, c'est surtout cet alignement entre le budget qui devient un peu meilleur et notamment avec les taux, et les prix qui redeviennent ou quasiment accessibles. Là, on était bloqué pour parfois 10 000, 20 000 ou 30 000 euros pour un achat immobilier. Donc, cette tendance est déjà meilleure. Ça va relancer un petit peu l'activité. Il faut que ça continue dans cette lancée-là pour faire une bonne année 2025 et continuer dans cette lancée sur 2026.
Dans le 9, moi je pense que ça sera une reprise qui sera lente et progressive des ventes, et finalement tant mieux parce que ça devrait permettre d'éviter l'emballement aussi sur les surenchères de foncier, ouais. Et sur les prix, je pense que malheureusement les prix vont quand même forcément repartir à la hausse parce que là les promoteurs ils ont purgé les stocks etc. Donc, mais il y a encore des opportunités du 9 à saisir. Il y a quand même des prix en baisse, hein, on le
où
voit
où ça alors où il y a
bah,
des
voilà, on a cité alors moi j'aime pas citer des villes parce qu'en fait aujourd'hui
ça dépend oui de
bah, ça dépend du quartier déjà, ça dépend de votre objectif. Moi j'avoue que quand on alors, en tout cas c'est notre façon de voir à trouver un logement neuf.com, en fait on n'aime pas dire acheter dans telle ville etc, surtout quand on est investisseur. Non, en fait il faut que ce soit un projet, enfin investir intelligemment c'est ça, c'est se dire je j'achète pourquoi, avec quel objectif, est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mon bien, est-ce que je vais le gérer moi-même, est-ce que je vais le mettre en gestion locative, est-ce que j'ai quel budget, c'est pour loger mes enfants plus tard, c'est tout ça, c'est des choses vraiment à peser, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait un vrai retour de l'investisseur patrimonial, parce que quand on a ça en tête, voilà, parfois il vaut peut-être mieux investir à côté de chez soi, un quartier qu'on connaît bien, qu'on va pouvoir s'occuper de son bien, que de se dire je vais aller investir à l'autre bout de la France parce que dans un classement on a vu que c'était intéressant d'investir à Toulouse, au Havre ou ailleurs. Non mais c'est vrai, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui avoir cette vision là. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Enfin, en tout cas, selon nous. Donc, c'est, voilà, il faut avoir ça en tête. Et ça, c'est le plus important, plutôt que se focaliser sur une baisse de prix d'un quartier à l'autre. Et même, j'en viens d'un projet à l'autre aujourd'hui.
Oui, ça dépend totalement.
Complètement. Et mais il y a effectivement, il y a des affaires à faire, il y a des opportunités à saisir. Aujourd'hui dans le neuf, bah les frais de notaire ils sont moins élevés que dans l'ancien. Bah il y a le PTZ, il y a des exonérations de taxes foncières, il y a tout ça. Quand vous mettez tout ça bout à bout, il y a aussi des factures énergétiques qui sont moins importantes. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout,
il y a plus d'aide pour le neuf, ça c'est sûr.
Il y a plus d'aide pour le neuf. Là on a vu la ministre, elle a annoncé que même il y aurait un élargissement du PTZ à des solutions hybrides. Avec du leasing immobilier, quand vous allez acheter avec une foncière, etc., qui vont un peu des co-acquéreurs avec vous, qui vont pouvoir vous soutenir dans votre achat. Ça va représenter un peu comme un apport personnel, hein. Vous aurez un co-financeur avec vous. Ça, aujourd'hui, c'était pas éligible au PTZ. Et ben là, ça va l'être selon ce qu'a dit la ministre, là, cette semaine, au MIPIM. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, sont plutôt positives. Mais, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les promoteurs, ils sont prêts. Ils ont des opérations dans les tiroirs. Ils sont plus que prêt à les mettre sur le marché, donc ça devrait permettre de relancer l'offre et donc de soutenir la demande. Les signaux sont ouverts, clairement.
Pour terminer, peut-être une question que je vais vous poser à tous les deux, si vous aviez une mesure forte à recommander au gouvernement, voilà, qu'il faudrait adopter pour relancer la machine, le paquebot.
Alors on n'en a pas parlé avant, moi je partirais sur le statut du bailleur privé, justement.
Qui serait en cours.
Moi,
selon
je pense
Valérie Létard.
Clairement, il y a une mission qui va être donnée à des députés, etc.
Je pense qu'il faut que ça ne fera pas comme le CNR.
Alors, j'espère aussi, surtout que le statut du bailleur privé, on en parle depuis très très longtemps. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose de simple, d'efficace, de facilement compréhensible. C'est vrai que c'était ça l'avantage du PINEL.
Donc avec un amortissement,
avec un taux, mais surtout qu'il soit gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on dise pas dans deux ans, bah en fait on était à 2%, on va passer à 1,5% et on va jouer comme ça. Parce que ça, justement, l'investisseur,
pérenne.
Il faut que ce soit pérenne et il faut surtout que l'investisseur, il ait confiance. Parce que c'est une question de confiance, l'immobilier, hein, dans le neuf ou dans l'ancien. Et si on lui dit, on va penser un système, mais finalement, peut-être que dans deux ans, trois ans, là, comme on l'a vu avec le LMNP, ça va changer, les règles changent, etc., les règles fiscales changent, ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut vraiment se dire, voilà, on a quelque chose de simple, d'efficace, et les investisseurs, ils vont revenir. La pierre, c'est une valeur refuge, vu l'incertitude. inquiétudes du moment. Clairement, moi, je pense que ça serait vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler sur cette année 2025.
Régis, une mesure ?
Oui, ben moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, je m'étais dit, le plus important, en tout cas, c'est redonner la confiance. Mmh. Parce que l'acte d'achat immobilier, c'est un projet d'avenir qui nécessite de se projeter. Et si on n'a pas cette notion de confiance et des lignes directrices, en tout cas, du gouvernement, qui vont dans le bon sens pour se dire « oui, c'est un achat sûr, c'est mon avenir, je le prépare et je le prépare de la bonne façon avec la pierre », ben c'est ça qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Quoi, parce que quand bien même on est limité dans le budget ou dans ses envies, on peut toujours les reporter si on a confiance dans une bonne ligne directrice et qu'on sait où on va. Donc pour moi, la mesure essentielle, c'est de redonner la place au logement qu'elle est censée avoir, c'est-à-dire une place primordiale sur tout l'écosystème social et économique, et retrouver la confiance dans la valeur de la pierre et l'intérêt que ça a surtout.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis sur Radio Immo. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Carrément Immo. À très vite.